This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio France Inter, le 18-20.
Le 18-20 en écho au téléphone sonne d'hier soir consacré à la production et à la reproduction des élites françaises et aux filières d'excellence de l'enseignement supérieur, classes préparatoires, grandes écoles. Vous étiez très nombreux à nous appeler au standard de France Inter. Tour du monde ce soir grâce à nos correspondants, que ce soit sur la forme, la nature, le coût des études supérieures. Nous allons comparer notre pays à l'Allemagne, à l'Italie, au Japon, au Kenya et aux États-Unis. Un jour dans le monde, c'est parti.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Et deux invités pour nous accompagner dans cet exercice comparatif ici à Paris. Olivier Rollot, bonsoir.
Bonsoir.
Auteur d'un blog dédié à l'enseignement supérieur sur le site du Monde, lemonde.fr, consultant au cabinet de conseil Headway Advisory consacré à l'enseignement supérieur. En duplex, des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Nicolas Charles, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université de Bordeaux, à la documentation française en 2015, enseignement supérieur et justice sociale, sociologie des expériences étudiantes en France. Alors on va commencer, si vous le permettez, par caractériser rapidement l'enseignement supérieur français. Vous diriez quoi, Olivier Rollot? Quels traits vous semblent les plus pertinents pour décrire le système chez nous, avant de faire le tour du monde?
Alors, le trait le plus pertinent, c'est qu'on considère que c'est un investissement de la nation vers ces jeunes, et que donc l'État finance très 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 largement les études des jeunes, des étudiants, alors que dans la plupart, enfin dans beaucoup de pays dans le monde, c'est un investissement au contraire, que la nation considère que c'est aux personnes de faire cet investissement et que s'ils ont des enfants, bah c'est leur problème, à eux de prévoir et à économiser pour ça.
Donc le grand clivage, Nicolas Charles, c'est un clivage public-privé et un clivage sur qui assume le coût des études supérieures.
Alors il y a un enjeu très fort en France sur qui assume le coût des études supérieures, et la manière dont on pourrait caractériser le système français finalement, c'est que c'est un système segmenté, c'est-à-dire qu'on a des filières très différentes où on va avoir, entre autres sur le financement, mais en réalité sur la sélection, ça fonctionne de la même manière, on va avoir un mode de financement, des frais de scolarité très différents, très différemment organisés.
Expliquez comment c'est organisé en quelques mots.
Alors en France, on va avoir donc à l'université des frais, c'est quasiment gratuit en quelque sorte, alors qu'on va avoir des écoles privées qui ne sont absolument pas régulées par les pouvoirs publics, où on va aller jusque dans certaines écoles de commerce à 15 000 euros par an. Et puis à l'autre bout de la chaîne, en quelque sorte, dans le public très prestigieux, comme Polytechnique, les écoles normales supérieures, on va avoir à la fois la gratuité et puis en plus des élèves fonctionnaires qui vont être rémunérés. Donc on a une espèce de très longue tension entre des études extrêmement chères, extrêmement onéreuses, et puis d'autres études gratuites, voire rémunérées. Et ça, c'est une particularité assez française.
Et la polarisation entre l'université ouverte à tous et les filières ultra sélectives que sont les grandes écoles, c'est sous cette forme-là, en tout cas, une spécificité française.
Effectivement, on a vraiment cet aspect-là. C'est-à-dire que, évidemment, dans tous les pays, on a des filières plus ou moins prestigieuses. Dans tous les pays, on a des filières plus ou moins sélectives, mais en fait, ce qui apparaît vraiment en France, c'est que l'idée, c'est que c'est vraiment segmenté, avec y compris juridiquement des choses très différentes, avec des réglementations extrêmement différentes, et y compris des frais de scolarité très différents, ce qu'on retrouve pas forcément dans les autres pays.
Alors, pour reprendre le titre de votre livre, qu'est-ce qui marque l'expérience étudiante française? Belle expression.
L'expérience étudiante française, je dirais qu'elle est marquée par l'urgence. C'est-à-dire que les étudiants français comprennent très bien que il faut qu'ils se dépêchent de terminer leurs études. Ils ne sont, même sans qu'on leur dise, en fait, ils en comprennent l'urgence. Ils comprennent aussi l'urgence de s'insérer professionnellement extrêmement rapidement. Et en fait, même si on leur a pas expliqué, ils ont très bien compris qu'il faut le faire. Parce que, en fait, ils ne reviendront jamais dans les études supérieures au fil de leur vie. Pourquoi? Parce qu'on a une formation continue qui est principalement une formation continue professionnelle, où on va avoir des formations d'adaptation au poste tout au long de la vie. Et ça, c'est très développé en France. Mais par contre, un retour à des formations longues et diplômantes, c'est extrêmement peu fréquent en France. Et sans qu'on le dise aux jeunes, en réalité, ils l'ont tout à fait compris. Et leurs parents, d'ailleurs, leur mettent la pression pour que eux-mêmes, à 18 ans, 19 ans, trouvent leur avenir professionnel, cherchent une place sur le marché du travail, plutôt que trouver leur propre voie personnelle.
On va donc faire le tour du monde. Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
On va s'arrêter sur les 5 continents. Comment l'enseignement supérieur fonctionne-t-il ailleurs? À quel prix et avec quels résultats? Premier exemple, juste à côté ce soir, l'Allemagne.
Oui, juste à côté, pourtant très différent, hein, vous allez le voir. Bonsoir Cyril Sauvageau, en direct de Berlin.
Bonsoir.
Alors, première différence majeure, Cyril, c'est d'abord le nombre de jeunes Allemands qui accèdent à l'enseignement supérieur, beaucoup plus faible qu'en France.
Et oui, en Allemagne, seuls 40% d'une classe d'âge arrive jusqu'au baccalauréat. C'est le système scolaire à l'allemande qui veut ça. L'orientation des élèves se fait très tôt, dès le collège. Beaucoup partent vers des filières courtes, vers l'apprentissage, et seule une minorité pourra donc prétendre à des études supérieures. Pour les bacheliers, c'est la note obtenue au bac et elle seule qui détermine l'accès à l'université. Plus les filières sont demandées, médecine, architecture, plus il faudra avoir obtenu une note excellente au bac. Un système assez élitaire et sélectif, donc. Pourtant, de plus en plus de jeunes Allemands veulent faire des études longues. Ça devient même un sujet de préoccupation ici. Comment garantir des débouchés ensuite sur le marché du travail, alors même que les filières d'apprentissage sont de moins en moins prisées? Il y a pénurie d'apprentis dans beaucoup de secteurs.
Et ça, on l'ignore, hein, vu d'ici. Bon, alors, ceux qui font donc le choix des études supérieures, et quelles sont leurs possibilités, Cyril? C'est l'université ou il y a des grandes écoles à la française?
Les grandes écoles sur le modèle français n'existent pas en Allemagne. Il y a deux filières, hein. D'un côté l'université, donc, avec des places limitées, un système de numerus clausus, un niveau d'exigence important et à l'arrivée une formation très théorique. Et de l'autre, il y a ce qu'on appelle les Fachhochschule. Ce sont des écoles post-bac plus professionnalisantes, plus adaptées au marché du travail. C'est la voie qu'empruntent les élèves qui n'ont pas le niveau suffisant, on va dire, pour accéder à la fac, mais ça permet de se former à un emploi. D'ailleurs, ces filières, elles sont plutôt valorisées en Allemagne. À noter que les étudiants ont tendance à démarrer tard leur cursus, hein, vers 24 ou 25 ans. Il n'y a pas de course aux études juste après le bac. Beaucoup prennent le temps de partir un an à l'étranger ou bien de se former aussi à une activité manuelle. Exemple, un étudiant qui souhaite faire des études d'architecture, il va faire d'abord une formation de charpentier pour acquérir un peu de pratique en plus de la théorie.
Bon, et dernière question, évidemment, quid du coût des études supérieures en Allemagne ?
Pas besoin de s'endetter pour pouvoir faire des études en Allemagne. Les frais de scolarité sont minimes, négligeables, quelques centaines d'euros par an. Pour ce qui est du coût de la vie étudiante, là, les parents ont l'obligation légale de financer les études de leurs enfants, s'ils peuvent se le permettre. Et si c'est pas le cas, il existe un système de bourse, le BAföG, qui permet à l'étudiant de recevoir quelques centaines d'euros par mois pour vivre. Enfin, beaucoup d'étudiants travaillent en parallèle leurs études. Les jobs étudiants sont exonérés d'impôts et de cotisations sociales. Et il existe dans les universités un système de bourse à l'emploi, les Studentwerk, où les entreprises viennent proposer toutes sortes de petits jobs à temps partiel.
Cyril Sauvageau, en direct de Berlin, merci.
Et autre exemple européen, Michael, autre système aussi, on part maintenant en Italie.
Et là, contrairement à l'Allemagne, il n'est pas rare de devoir s'endetter pour étudier. Bonsoir Mathilde Lamberti, en direct de Rome.
Bonsoir.
Alors on commence justement par les tarifs, Mathilde. Les études sont-elles chères en Italie ?
Bah écoutez, il y a de très fortes disparités, hein, 1 000 euros environ l'année pour l'université basique, et le tarif va dépendre du niveau de ressources de l'étudiant, mais il faut compter jusqu'à 10 000 euros pour les filières les plus prestigieuses dans les universités privées et sélectives, pour étudier par exemple l'économie à l'université Bocconi de Milan, le management à l'université Louise de Rome, ou encore pour suivre une école d'ingénieurs comme l'école polytechnique de Milan.
Et sur le grand marché mondial, comment se placent les universités italiennes ?
C'est pas terrible. Le classement mondial des universités dit classement de Shanghai. Aucune université publique italienne parmi les 150 meilleures. Alors certes, ce classement est fondé sur la recherche. C'est d'ailleurs une critique qu'on lui adresse. Et c'est là que le bât blesse en Italie. La recherche est très mal financée. Elle représente 1,3% du budget italien. En France, c'est à peu près le double. Le premier phénomène marquant donc en Italie est la fuite des cerveaux. Les meilleurs éléments fuient leur pays d'origine. On les retrouve en premier lieu en France. C'est le premier pays d'exil, entre guillemets, des chercheurs italiens. Illustration de cette fuite des cerveaux, en février dernier, 30 chercheurs italiens figuraient parmi les 300 lauréats d'une bourse du Centre européen de recherche. Mais sur ces 30 universitaires, plus de la moitié exerçaient à l'étranger.
Ouais, c'est énorme. Mais pour quelle raison, outre ce manque de financement de la recherche, Mathilde ?
Bien, les universitaires décrivent un système sclérosé, féodal, où il faut, et là je cite une jeune chercheuse, hein, prêter allégeance au professeur baron dans l'espoir d'obtenir un poste qui de toute manière ne sera jamais ouvert. Vous voyez, l'âge moyen des professeurs d'université est de 53 ans en Italie, peu de place pour les jeunes et pour les femmes. Elles représentent plus de la moitié des doctorants ici, mais seulement 20% des professeurs de rang 1. Et ce phénomène de fuite des cerveaux se manifeste également à l'intérieur du pays, puisque un jeune méridional sur quatre ne s'inscrit pas dans la fac de sa région, mais il choisit de migrer au nord de l'Italie, car le nord représente davantage d'opportunités de travail.
Plus d'opportunités, mais avec un taux de chômage qui reste très élevé chez les jeunes Italiens.
Oui, alors quasiment 40% chez les 15-24 ans actuellement, et le diplôme universitaire n'est plus une garantie. Je vous donne les dernières données parues, les données Eurostat. 3 ans après son diplôme de licence, seulement un jeune Italien sur deux a décroché un travail fixe, quand en moyenne en Europe, 3 ans après leur licence, 80% des jeunes sont embauchés. L'Italie, en ce qui concerne le placement de ces jeunes, figure à l'avant-dernière place en Europe, juste avant la Grèce.
Mathilde Imberti, en direct de Rome.
Très intéressant, on va reprendre les choses en détail avec nos invités. Olivier Rollo, le nombre d'étudiants en Allemagne, une minorité, disait Cyril Sauvageau, c'est une philosophie radicalement différente de la France, non ?
Oui, mais c'est un problème aujourd'hui. En Allemagne, on monte le diplômé dans l'enseignement supérieur, d'où la décision aujourd'hui que les études sont quasiment gratuites dans l'enseignement supérieur. Et on voit les différences entre les pays. On a à peu près 40% des 30-34 ans en France qui sont diplômés du supérieur. On n'en a que 30% en Allemagne, mais on en a encore moins en Italie. On a 20%, quasiment moitié moins. En Corée du Sud, on va avoir 80% de diplômés de l'enseignement supérieur. Alors ça ne veut pas dire forcément que pour ça, c'est la solution au chômage. En Suisse, il y a peu de diplômés de l'enseignement supérieur, alors qu'il y a très peu de chômage des jeunes. Et on voit vraiment des disparités énormes entre des systèmes où finalement, on a gardé de l'industrie, en Suisse, en Allemagne, et des systèmes où maintenant on capitalise sur une troisième voie.
Nicolas Charles, votre analyse du système allemand, de la situation allemande ?
Oui, je pense que sur cet aspect d'étudiant, il faut se rappeler qu'en fait, la mobilité sociale des travailleurs se fait aussi sur le marché du travail, alors que nous, elle se fait principalement en formation initiale, étant donné que le diplôme d'études initiales compte énormément. Alors, ce qui m'a paru très intéressant sur le cas allemand, c'est qu'il est proche en un sens du cas suédois que je connais bien, où quand vous allez voir les étudiants, ils vous expliquent et que vous leur demandez finalement, à 18 ans, est-ce que tu as fait des études supérieures ? Ils vous expliquent tous, ben non, à 18 ans, moi j'étais fatigué de l'école. Ils expliquent ça parce qu'ils vous expliquent que de 3 à 18 ans, ils sont restés à l'école et qu'ils avaient autre chose à faire après. Et effectivement, c'est le même cas en Allemagne, c'est-à-dire qu'entre 18 et 21 ans, ils font autre chose, ils voyagent, ils travaillent, etc. Et qu'en fait, il y a eu beaucoup moins une pression à l'insertion professionnelle comme ce qu'on peut avoir en France, et plutôt l'idée que il y a finalement un développement personnel et qu'eux-mêmes doivent se trouver, en quelque sorte.
Est-ce qu'il y a un autre rapport aux études théoriques en Allemagne que chez nous ? Nicolas Charles ?
Oui. Il y a à la fois quelque chose en lien entre plus le théorique et le pratique, alors que en France, en quelque sorte, on a une course à la professionnalisation, mais cette course à la professionnalisation, elle se fait au travers des compétences vraiment professionnelles, alors que le sens des compétences en Allemagne ou en Suède, c'est plus la recherche de compétences génériques. Et c'est là où en fait on fait une grave erreur en France, c'est que finalement on cherche à pousser les jeunes jusqu'à un bac plus 5, tout ça pour acquérir des compétences directement applicables à un métier ou un petit groupe de métiers, alors que finalement ce qu'on devrait rechercher, c'est l'accès à une grande diversité de compétences très génériques qui puissent permettre d'accéder à un ensemble de métiers de cadre, d'encadrement et d'expertise, plutôt qu'à un petit groupe de métiers. On en revient un petit peu en France, mais en fait c'est ce qui se passe dans la plupart des pays du monde, y compris au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, c'est finalement de viser un groupe de métiers beaucoup plus large que ce qu'on fait en France.
Et l'Italie, Olivier Rollo, alors, elle a l'air délabrée, l'université là-bas, à entendre Mathilde Imberti.
Oui, c'est un vrai problème. Il y a à la fois peu de diplômés, qui on trouve pas facilement un emploi, qui forcément vont à l'étranger, souvent après. Alors, par contre, comme elle le disait, il y a des très très bonnes universités de commerce comme la Bocconi à Milan, qui permettent, elles, de former au plus haut niveau, et c'est une exception en Europe. La Bocconi, elle forme quasiment la moitié de l'élite de management italienne. C'est une école d'une puissance extraordinaire. Et à côté de ça, on a plein d'établissements en déshérence avec effectivement des professeurs assez âgés et pas très motivés. Donc, on a un gros problème pour l'Italie qui forme peu et finalement, les étudiants n'ont même pas intérêt de former. Derrière, ils sont au chômage.
Avec des écarts de 1 à 10 en ce qui concerne les frais d'inscription, Nicolas Charles.
Alors effectivement, on a des très gros écarts en Italie également. Et ce qui est aussi proche en fait du cas français, sauf de manière plus accentuée en fait en Italie, c'est finalement la philosophie des aides aux étudiants. Parce que en fait, la question, c'est pas seulement la question des frais de scolarité. Elle est importante, mais en fait, la vraie question, c'est aussi quelles sont les aides autour qui permettent de répondre au financement des études. Et en fait, ce qui rapproche la France de l'Italie, c'est finalement l'idée qu'on a une sorte de modèle familialiste où la famille doit financer la jeunesse et éventuellement, si elle ne peut pas, hein, c'est ça le sens des bourses sur critères sociaux qu'on a en France, éventuellement, si la famille ne peut pas, alors l'État prendra en charge la jeunesse. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous rapproche aussi.
Oui, enfin, ça nous rapproche. Vous savez, quand je me contemple, je me désole. Quand je me compare, je me console. On a l'impression que la France est le pays de la recherche de pointe quand on voit l'attractivité de la France pour les Italiens, Nicolas Charles.
Oui, alors c'est sûr que ça dépend à qui on se compare. Hein. Tout l'enjeu de la comparaison, c'est de savoir à qui on se compare, on est d'accord. Si on se compare à l'Italie, probablement, y compris en termes d'insertion professionnelle des jeunes, des jeunes étudiants, y compris en termes de niveau de dépenses par étudiant. Hein, on est à peu près autour de 10 000 euros en Italie et autour de 15 000 de 10 000 dollars, excusez-moi, en Italie en parité de pouvoir d'achat et de 15 000 dollars en France, donc 50% de plus. Donc il y a des vrais, effectivement, différence par rapport à l'Italie, je pense qu'on souffre pas la comparaison. Quand on se compare au Royaume-Uni ou à la Suède, par exemple, ou même dans une moindre mesure à l'Allemagne, c'est vrai que là, on fait beaucoup moins bel effet.
Oui, là, on peut se désoler. Pas d'incident diplomatique avec nos amis italiens, en tout cas. Direction maintenant les États-Unis, Michael. Les universités américaines sont souvent citées en exemple de qualité d'enseignement, mais aussi décriées, bien sûr, pour leur coût prohibitif.
Et les deux sont vrais, hein, Nicolas, et pour ne parler que du coût, eh bien, il n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans, multiplié par 4, pour atteindre aujourd'hui une moyenne de 18 000 dollars par étudiant, un peu plus de 16 000 euros. Et on ne parle ici bien sûr que des seuls frais d'inscription. Et selon les facs, la fourchette est très très large. 15 000 dollars pour les établissements les moins cotés, mais près de 64 000 dollars l'année, 58 000 euros pour les 5 plus prestigieuses, University of Chicago, Columbia, New York University. Et là, il s'agit du public, car si vous optez pour le privé, Harvard par exemple, il vous en coûtera 110 000 dollars pour la première année d'un MBA. Résultat, plus des deux tiers des étudiants américains sont endettés. Et dès le premier emploi décroché, ils commencent à rembourser leur banque. Exemple avec Richard, 21 ans, étudiant en droit dans une université publique de l'État de New York. Il a dû renoncer à une faculté prestigieuse parce que beaucoup trop cher pour lui. Et c'est encore un lourd sacrifice pour sa famille et pour son avenir. Il l'a dit à notre correspondant à Washington, Frédéric Carbone.
Je viens de la classe moyenne et pour ma famille, c'est un fardeau économique massif. Je vais dans une école publique à New York et je dois payer 20 000 dollars par an. C'est une somme très lourde pour une famille qui n'a pas beaucoup de moyens. Mes parents ont mis de l'argent de côté depuis ma naissance, mais à l'époque, les coûts n'étaient pas aussi élevés. Donc cet argent qui devait payer mes études n'était évidemment pas suffisant. Pendant la dernière année de lycée, vous vivez ce moment étrange où vous allez sur le site internet de votre future université et vous réalisez que vos parents gagnent juste un peu trop pour bénéficier d'une bourse. Et tout d'un coup, vous êtes endetté. C'est tenable, mais s'il y a le moindre souci économique, je devrais abandonner cette école et cela aura des conséquences pendant toute ma vie. Je dois faire des études pour réussir ma vie et être compétitif sur le marché du travail. Mais pour atteindre cet objectif, c'est un sacrifice majeur qui ne sera peut-être jamais remboursé. Devoir renoncer à des études ou s'endetter pour avoir un diplôme, c'est horrible. Ce n'est pas juste pour les individus, ce n'est pas bon pour l'économie, cela ne rend pas la société meilleure. C'est une mauvaise idée sur tous les plans.
Voilà, et sachez que dans le trio de tête des universités les plus chères du monde, les facs américaines sont presque à égalité avec leurs consoeurs australiennes et britanniques, talonnées par le haut du panier canadien, tandis qu'à Pékin, Shanghai ou Hong Kong, les plus prestigieux établissements ne dépassent pas les 6 000 euros l'année en moyenne. Et puis il y a, Nicolas, des systèmes à part, comme au Danemark, où la fac de Copenhague, par exemple, est totalement gratuite pour les Danois, mais à 14 000 euros l'année pour un étudiant étranger, idem à Utrecht aux Pays-Bas.
Renoncer aux études ou s'endetter, disait Richard, cet étudiant américain au micro de Frédéric Carbone, terrible tenaille, Olivier Rollo.
Oui, alors il faut quand même dire qu'il n'y a pas que les universités, il y a aussi ce qu'on appelle les community colleges, qui sont en 2 ans après le bac et qui reçoivent finalement 40% des étudiants américains et qui sont à peu près 2 000 $ par mois pour les étudiants qui viennent de l'État. Donc énormément d'étudiants qui n'ont pas les moyens d'aller tout de suite à l'université peuvent commencer par un community college, qui ressemble un peu à ce qu'on fait en France en BTS, DUT, et les meilleurs d'entre eux peuvent ensuite intégrer un bachelor en 3e année et aller à l'université. Donc le système n'est pas entièrement à ce coup-là pour tout le monde. Il y a quand même des grosses différences. Mais encore une fois, l'investissement, il est rentable pour certains, pas pour tous. Quand vous faites Harvard, c'est rentable, quel que soit le prix. Mmh. Parce que derrière, vous aurez une carrière, vous aurez des réseaux, et en plus, si vous avez pu bénéficier de bourses comme un certain nombre d'étudiants, ça sera très rentable. Par contre, une petite université américaine qui coûte relativement cher, là, il faut se demander si ça en vaut la peine.
Nicolas Charles, votre analyse de l'exemple américain ?
Alors, quand on parle en termes d'équité, de justice sociale ou d'accessibilité financière, en fait, on va voir que le système américain, il est complètement opposé au système français d'enseignement supérieur et de financement. En France, on a des frais en moyenne faibles, mais aussi peu d'aide. Et en fait, la manière dont on construit l'accessibilité financière des étudiants américains, c'est des frais extrêmement élevés, mais avec des aides extrêmement élevées. Et donc finalement, quand on se penche sur les inégalités qui en découlent, on n'a pas forcément des inégalités complètement différentes dans les deux pays, même si en fait, la différence quand même, c'est que du coup, ça va beaucoup déboucher sur du prêt, aux États-Unis et donc des difficultés à rembourser des prêts, y compris avec une bulle hein, de dette privée
énorme. Oui, dont on dit qu'elle sera l'une des crises économiques majeures peut-être des mois ou des années à venir.
Ben ça pourrait bien en fait. Hein. Je pense qu'on n'en sait rien exactement pour le moment. Le gouvernement essaye de rapatrier en fait cette dette privée en partie dans de la dette publique parce que en réalité ça serait moins grave hein, du point de vue des économies. Mais en fait ça crée même des problèmes macroéconomiques énormes. Alors évidemment dans ces deux configurations, hein, frais faibles, aide faible ou frais élevés, aide élevée, on a des formes d'inégalité. Évidemment quand vous prenez le cas de la Suède et du Danemark a été cité aussi dans les exemple. Alors là, on a des frais faibles, voire nuls. Hein. C'est quasi gratuit dans toutes les filières en Suède et au Danemark. Et par ailleurs, vous avez des bourses et des prêts pour financer le coût de la vie. Alors évidemment, dans cette configuration, vous avez beaucoup moins d'inégalités.
Nicolas Charles, quand on entend cet étudiant américain dire que pour un membre de la classe moyenne, un enfant de la classe moyenne comme lui, l'université est un fardeau, on se dit qu'en France, l'université, philosophiquement, est une perspective pour un membre ou un enfant de la classe moyenne, non ?
Alors effectivement, là, d'imaginer pouvoir rentrer à l'université, il faut s'imaginer quand même que le système américain, il est beaucoup plus massifié encore que le système français. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'une plus grande part de la jeunesse qui accède à l'enseignement supérieur, donc y compris une plus grande part des classes populaires. Mmh. Donc imaginez qu'on en arrive à ça, ça fait effectivement peur. En même temps, quand vous allez voir les jeunes français hein, de classe moyenne et de classe populaire qui font des études, je sais pas s'ils parlent forcément de fardeau, parce qu'ils ont pas de poids financier, mais en réalité il y en a beaucoup qui renoncent à faire des études parce que justement, y compris parce que l'idée de faire un prêt pour étudier, c'est-à-dire d'imaginer que ces études sont un investissement, est complètement hors de pensée d'une grande partie des étudiants français, à la fois parce que de fait, les bénéfices privés qu'ils en retireront sur le marché du travail sont probablement plus faibles peut-être qu'aux États-Unis, en tout cas dans certaines disciplines, mais de fait ce que ça crée, c'est que ils préfèrent d'abord ne pas manger, demander de l'argent aux parents, puis demander de l'argent aux amis, puis vraiment arrêter toutes les dépenses inutiles le 15 du mois, avant même d'imaginer faire un prêt.
Oui, mais ils travaillent aussi, non ?
Alors ils travaillent beaucoup en fait.
Petit boulot à côté.
Ils ont beaucoup de petits boulots. Ils ont beaucoup de petits boulots aussi l'été. Moins qu'ailleurs en réalité parce que c'est à la fois moins fréquent qu'ailleurs et puis en même temps beaucoup plus souvent dénoncé. Pourquoi ? Parce qu'en France on a cette idée que quand on fait des études, on devrait les faire à temps plein. Finalement c'est ça aussi qui marque l'expérience française, c'est que c'est une attente des enseignants, c'est une attente des établissements que les étudiants s'investissent à temps plein dans leurs études et ça correspond tout à fait à la logique que j'expliquais tout à l'heure, que finalement on va faire un diplôme initial et qu'après la fin de son diplôme initial, on ne reviendra quasiment plus dans des études longues et diplômantes tout au long de sa vie.
Allez, on file sur un autre continent maintenant, Michael. On prend la direction de Nairobi au Kenya.
Et on va totalement changer d'atmosphère. Nairobi, où nous attend notre correspondant pour l'Afrique de l'Est, Bruno Meyerfeld. Bonsoir.
Bonsoir Michael.
Alors les universités kenyanes sont parmi les meilleures d'Afrique, presque chaque année en bonne place dans les classements internationaux, et c'est ce qu'on peut appeler un leg de la colonisation britannique.
Oui, tout à fait Michael, la colonisation au Kenya a été vraiment très dure, mais les Britanniques ont tout de même légué un système éducatif performant, à la base réservé aux Blancs. L'université de Nairobi au Kenya et aussi celle de Dar es Salaam en Tanzanie, et surtout l'université Makerere en Ouganda sont parmi les meilleures du continent. Au Kenya, les présidents successifs ont mis le paquet sur l'éducation. Aujourd'hui, le pays a une vingtaine d'universités publiques et deux fois plus de facs privées. Des facs trop populaires, trop demandées aussi. Selon la presse, Michael, le nombre d'étudiants s'enrôlant dans les universités publiques grimpe de 25% par an, provoquant, vous l'imaginez bien, un engorgement terrible au sein des campus, d'autant que le pays souffre de grosses inégalités. Dans le nord-est du Kenya, on ne trouve ainsi qu'une seule université, celle tristement célèbre de Garissa.
Tristement célèbre, Garissa, un théâtre, on le rappelle, d'un dramatique attentat en avril 2015. 142 étudiants avaient été tués. Attaque terroriste qui avait traumatisé tout le pays. Et aujourd'hui encore, Bruno, on sent toujours cette inquiétude sur tous les campus.
Une inquiétude, oui, Michael, et je dirais même une véritable paranoïa. Un cri, une coupure d'électricité peut créer la panique dans les universités kenyanes. Fin mars, une quarantaine d'étudiants ont ainsi été blessés dans un mouvement de foule à Nairobi. À l'origine, une simple bagarre entre deux élèves. L'an dernier, à la Strathmore University, toujours à Nairobi, la police a simulé une attaque terroriste sans prévenir personne. Les étudiants, paniqués, ont sauté par les fenêtres. On a relevé un mort et plusieurs dizaines de blessés.
Et à cette paranoïa compréhensible, s'ajoute un fléau quasi endémique dans le pays, c'est la corruption.
Oui, Michael, vous le savez, le Kenya est rongé par la corruption. Après la politique et les affaires, elle a finalement gagné le banc des facs. Avec l'an dernier, un énorme scandale de tricherie. Des milliers d'élèves passant le bac, un examen qui donne accès aux universités ici, ont pu tricher, aidés par des professeurs, soutenus par leurs parents, achetant les réponses aux questions via leur portable et les réseaux sociaux. Une question, Michael, c'est 10 euros, aussi simple que ça. 5000 résultats ont été annulés. Le Bureau national des examens, impliqué lui aussi, a été dissous. Bref, une génération entière a été discréditée. Alors, un conseil du Kenya aux lycéens français, ne trichez pas au bac.
Bruno, merci Bruno Meyerfeld, en direct de Nairobi au Kenya.
Un mot de réaction, Nicolas Charles, à ce système kenyan que Bruno Meyerfeld vient de nous décrire.
Mais en fait, j'imagine que le Kenya correspond en partie au début du développement de l'enseignement supérieur en France, hein, notamment sur plusieurs aspects. C'est d'abord les classes aisées hein, qui arrivent dans l'enseignement supérieur. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, ça se démocratise progressivement à mesure que finalement le système se massifie. Hein. C'est ce qu'on avait dans les années 60, hein, les héritiers en France hein, de Pierre Bourdieu. Finalement, c'est finalement ces étudiants qui sont d'origine très aisée et quand ils accèdent d'ailleurs à ces aux études supérieures. D'ailleurs, souvent, ils ont des positions sociales très enviables après hein, sur le marché du travail. Alors après, la période qui arrive probablement dans un second temps, quand on a 25% d'augmentation d'étudiants par an, c'est peut-être le risque d'inflation scolaire. C'est-à-dire que vous allez avoir à un moment donné...
L'inflation scolaire.
En fait, ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus d'étudiants, de diplômés de l'enseignement supérieur, peut-être de l'enseignement supérieur de plus en plus long, peut-être des bacs plus 2, puis de nouveau des bacs plus 5. Et en fait, finalement, il va y avoir trop de diplômés pour les postes d'encadrement, d'expertise sur le marché du travail. Et ça, c'est à la fois un risque, et puis en même temps, c'est ce qui va développer en même temps le pays. Hein, mais c'est un risque aussi, après, de brain drain, de départ des jeunes Kenyans vers l'étranger et vers le Royaume-Uni, probablement en partie.
Est-ce que la massification est synonyme de démocratisation, Nicolas Charles ?
C'est pas forcément nécessaire. En fait, quand on... Il y a un effet mécanique, en quelque sorte. C'est-à-dire que dès lors que vous avez trois fois plus d'étudiants, évidemment, vous allez avoir de plus en plus des classes moyennes et des classes populaires qui y accèdent. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que au-delà de la massification, c'est un terme quantitatif. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure où il y a une massification, l'éducation, il va y avoir de plus en plus d'inégalités qualitatives. Par exemple, vous allez avoir BTS et BTS. Aujourd'hui, vous avez en France des BTS publics et des BTS privés hors contrat qui coûtent 6000 euros par an et qui donnent une moins bonne réussite. Mmh. Vous allez avoir des grandes écoles et des universités. Vous allez avoir des masters sélectifs, des masters non sélectifs, etc. Donc des questions qui ne se posent pas auparavant, au fur et à mesure, apparaissent des différences entre les filières, des différences entre les formations. Et en fait, là, vous allez avoir des inégalités entre différents bac plus 5. Alors qu'auparavant, c'était la question de plus on va loin et plus on s'en sort mieux.
Allez, pour la dernière halte, on va changer encore de continent, direction l'Asie, Michael, avec un modèle d'enseignement supérieur absolument unique au monde, le modèle japonais.
Oui, un modèle qui va certainement faire des envieux chez tous les étudiants du monde, en tout cas en ce qui concerne, Nicolas, les débouchés. Car les étudiants japonais, tenez-vous bien, sont assurés à presque 100% d'obtenir un emploi avant même l'issue de leur cursus. Garantie incroyable, mais qui ne signifie pas forcément succès. À Tokyo, reportage signé Karine Nishimura-Poupée.
Si l'on devait donner une image de la particularité de l'enseignement supérieur au Japon, ce serait peut-être l'annonce faite il y a quelques jours par le ministre de l'Éducation, Hiroshi Hase.
Le pourcentage d'étudiants ayant eu une promesse d'embauche s'élevait pour l'année passée à 97,3%. C'est un record depuis que nous faisons ces statistiques.
Chaque année, c'est ainsi, dans un pays où la main-d'œuvre baisse, plus de 9 étudiants japonais sur 10 obtiennent une promesse d'embauche dans l'année précédant la fin de leur cursus, et entre dans la vie active dans les jours suivants, généralement le 1er avril. On pourrait en conclure que l'enseignement supérieur japonais se porte à merveille, mais ce serait peut-être aller vite en besogne. Car les frais émoulus d'universités ou écoles spécialisées ont tendance à choisir l'entreprise la plus en vue au lieu du travail qui leur plaît le plus, si bien qu'un tiers abandonne dans les 3 ans. Les firmes, elles, les considèrent comme des individus encore non opérationnels et les reforment à leur façon. Ceux qui restent se coulent dans le moule de leur société où ils font souvent toute leur carrière, ce qui est aussi dénoncé comme un travers car les entreprises finissent par vivre en vase clos, hors du temps, comme ne cesse de le répéter le professeur Takeshi Natsuno de l'université Keio.
Parmi les pays riches, il n'y a qu'au Japon que perdure un système d'emploi à vie et de progression à l'ancienneté. Au XXIe siècle, ce qu'il faut, ce sont des jeunes qui savent exactement ce qu'ils veulent faire.
L'éducation japonaise est aussi vue comme formant des salariés disciplinés au lieu de têtes pensantes, ce qui expliquerait en partie pourquoi aucune nouvelle société japonaise de grande envergure dans les secteurs de pointe, comme Google ou Facebook, n'a émergé ces dernières années dans l'archipel. La société Nippon accorde en outre une importance démesurée au prestige des diplômes, et dès l'école élémentaire, les parents établissent un plan de scolarité qui coûte les yeux de la tête, mais est censé mener tout droit à l'université de Tokyo, à Keio ou à Seta, les plus prestigieux établissements dont le concours d'entrée est une porte difficile à franchir, surtout pour les moins riches. Les enfants d'ouvriers ont moins de chances d'y poursuivre leurs études et donc de décrocher les bonnes places compte tenu de préjugés exorbitants. Le Premier ministre Shinzo Abe en personne reconnaît en creux l'existence de ces inégalités, mais s'en tient à parler d'un idéal à atteindre sans proposition concrète.
Nous devons créer un pays où les enfants et les jeunes ne renoncent pas à leurs études en raison des difficultés financières de leur famille. Et c'est pour cette raison que nous devons soutenir fermement les étudiants.
Voilà, Shinzo Abe, reportage à Tokyo, signé donc Karine Nishimura-Poupée.
Passionnant, hein, ce contraste, la violence de ce contraste, Olivier Rollo, entre ces 97,3% d'étudiants qui trouvent un emploi directement quelques jours après l'université et le fait que, visiblement, ça se passe mal à l'entreprise, en entreprise.
Oui, et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le Japon, c'est que finalement, ça ressemble beaucoup à la France, par bien des aspects. Comme disait votre correspondante, l'université de Tokyo mène à tous les meilleurs emplois, donc tout le monde rêve de faire cette université. Et il n'y a qu'un seul pays au monde où on voit ça, c'est la France, où finalement le fait de sortir d'HEC, d'école polytechnique et de l'ENA vous permet de rentrer dans les meilleures carrières. Et le Japon et la France, pour ça, sont assez proches.
Même constat, Nicolas Charles.
Oui, je pense qu'on a en partie des choses très similaires avec le Japon. Peut-être que c'est plus accentué là-bas. Ce qu'on peut remarquer sur le cas français, c'est une forme d'adéquationnisme. Hein. L'adéquationnisme, ça veut dire que on estime qu'une formation devrait mener à un poste en particulier et que pour chaque poste, il faudrait une formation particulière. En réalité, il y a un petit peu cet état d'esprit en France, alors que si vous prenez par exemple le cas du Royaume-Uni, vous pouvez très bien faire des études en histoire et puis ensuite aller travailler en banque ou en assurance. ça ne choque personne. Et cette idée que finalement, vous avez à la fois dans la hiérarchie verticale des établissements et dans, de façon horizontale dans les filières, des perspectives d'emploi qui sont presque définies à l'avance, hein, même par votre établissement, c'est quelque chose qui probablement nous rapproche un petit peu du Japon. Ce qu'il faut voir aussi, ce qui est intéressant peut-être par rapport au cas japonais, c'est qu'on entend, qu'on estime qu'ils sont mal préparés. C'est-à-dire que les employeurs estiment que les jeunes diplômés sont mal préparés. Et en fait, on entend beaucoup ça aussi en France, alors que par rapport aux autres pays, notamment la Suède et le Royaume-Uni, on fait par exemple beaucoup plus de stages, et y compris à l'université, on a des stages beaucoup plus longs, beaucoup plus en responsabilité que dans les autres pays, y compris qu'au Royaume-Uni, qui est pourtant, où on pourrait s'imaginer pourtant que c'est le pays des stages, etc., mais pas du tout. Et en fait, on retrouve probablement un peu cet aspect-là au Japon, où à la fois c'est peut-être assez professionnalisé, et en même temps, eh ben, il y a une défiance en quelque sorte, peut-être des entreprises au regard de la formation telle qu'elle est organisée.
Merci en tout cas à tous les deux, passionnant de vous écouter. Nicolas Charles, en duplex de Bordeaux, merci aux équipes de France Bleu Gironde pour ce duplex. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Bordeaux et que vous avez publié à la Documentation française en 2015 Enseignement supérieur et justice sociale, sociologie des expériences étudiantes en Europe. Merci à Olivier Rollot qui était ici en studio à France Inter à Paris. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un blog dédié à l'enseignement supérieur qu'on peut lire sur le site du quotidien Le Monde, lemonde.fr, que vous êtes également consultant au cabinet de conseil Headway Advisory consacré à l'enseignement supérieur. Un dernier merci pour les correspondants de France Inter à travers le monde qui nous ont permis de voir un tout petit peu quelle était la spécificité par comparaison de l'enseignement français dès lors qu'on le met en perspective avec nos pays voisins ou plus éloignés. 18h54.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
L'heure de l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Les critiques, Anthony, pleuvent sur l'organisation française de l'Euro 2016.
Et elles sont même parfois très dures, ces critiques, comme par exemple, je l'ai repéré, dans le Magyar MZ, c'est un quotidien hongrois, dans son éditorial d'hier, et à propos des échauffourées de Marseille, le MN écrit « Les forces de l'ordre françaises semblent s'être exclusivement préparées pour le terrorisme et donc ont totalement négligé le plus évident des dangers, à savoir la présence d'ultra parmi les milliers de fans de foot marseillais. Mais étaient-elles si bien préparées que cela au danger terroriste, ces forces de l'ordre ?» Toujours selon le Magyar, le journal hongrois. Une fusée d'alarme a été allumée en plein stade Vélodrome par des supporters russes en direction des Britanniques, et ce malgré trois contrôles de sécurité avant d'entrer dans le stade.
Les Hongrois, Anthony, ne sont pas les seuls à noter que les mesures de sécurité ne seraient pas vraiment à la hauteur.
Et c'est un journaliste de The Independent qui n'en revient toujours pas, le quotidien britannique. Donc, le pays est censé être en état d'urgence. Et pourtant, depuis 8 jours que je suis là, j'ai pris 8 fois le train aller-retour et jamais mes billets ni moi-même n'avons été contrôlés. Ça a été le cas de l'aéroport Charles de Gaulle au centre de Paris, de et vers le Stade de France, et même lors de mon dernier voyage aller-retour vers Marseille. Et ce, en moins de 24 heures après les scènes de violence entre supporters britanniques et russes, cette absence de contrôle de sécurité visible au sein des transports m'a semblé particulièrement inquiétante. Il y a même eu des remontrances officielles, figurez-vous, rapportées cette fois par le Télégraphe, toujours à Londres, en la personne de Theresa May, la ministre britannique de l'Intérieur. Certes, commence-t-elle par expliquer, certains supporters britanniques se sont comportés de façon inexcusable, mais, ajoute-t-elle aussitôt, les autorités françaises et l'UEFA devraient peut-être aussi se demander comment la séparation entre britanniques et russes a-t-elle été gérée en plein stade Vélodrome. D'autant, ajoute cette fois le quotidien lui-même, que ces mêmes autorités avaient été prévenues par les Britanniques qu'un important groupe d'ultra-russes était arrivé en France la semaine précédente. Du coup, eh bien, une espèce de course à, je vous l'avais bien dit, a commencé à s'emparer de toute l'Europe, à commencer par les Allemands, qui ont d'ailleurs fait savoir tout par à coup de communiqué de presse dans toute la presse allemande que le match de jeudi entre l'Allemagne et la Pologne, et à haute voix si possible, était à très haut risque.
Alors feuilletons-la cette presse allemande, Anthony.
Eh bien, du Bild au Rheinische Post, on se demande par exemple comment se fait-il que plus de 200 hooligans identifiés comme fauteurs de troubles et avec un passé de violence dûment notifié aient pu se retrouver sans difficulté à Lille par exemple. Même la presse grecque avec Ika Fimelini s'en étonne, remarquant que des hooligans allemands arborant déchirant le drapeau nazi et hurlant « Nous venons envahir la France une seconde fois », ont pu parader dans Paris sans même parler des Russes à Marseille, qui était souvent depuis plusieurs jours. Il n'y a guère que le Guardian, au travers de la plume d'une de nos compatriotes, Agnès Poirier, pour comprendre ce qui se joue plus profondément. Elle explique que les manifs de rue, les grèves de transport n'ont pas seulement mis la pression sur les forces de l'ordre, elles ont aussi envoyé un message déplorable aux visiteurs venus de l'étranger et aux journalistes en particulier. Mais en fait, la vérité, c'est que le moral du pays est au plus bas et il est sombre. Les Français sont au moins aussi épuisés que leurs forces de l'ordre. Et la journaliste rappelle l'Anus Horribilis qui vient de traverser les Français avec deux attentats horribles en quelques mois. Autrement dit, soyez indulgents, la France est en convalescence.
Anthony Bélanger, merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20 consacré aux attentats d'Orlando et de Magnanville. Deux manifestations de cette forme de terrorisme qui n'est pas le fruit d'une logistique sophistiquée ni de réseaux à l'architecture complexe, mais l'œuvre d'individus relativement isolés, peu équipés, redoutablement dangereux également. Vos questions sur cette inquiétante forme de terrorisme, parfois appelée low cost ou terrorisme solo, 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Deux invités, l'eurodéputé Arnaud Danjean et le journaliste, notre confrère de RFI, spécialiste du djihadisme, David Thompson. Le journal de Sébastien Paour à suivre dans une minute.